Chapitre 8 L'X de la lettre. Dans la soirée, le lendemain, Martin Dumas, que j'avais rencontré montant la rue Lepic, m'entraîna chez lui pour causer, fumer une cigarette et me fit entrer dans son cabinet de travail que je connaissais bien. Pièce assez spacieuse, garnie de meubles anglais en cuir, d'un rocking chair sur lequel mon ami se faisait à s'étendre parfois, pour lire, fumer tranquillement, se reposer un peu. Une grande armoire bibliothèque, quelques tableaux au mur, des eaux-fortes et des panoplies d'outils de voleurs, de cambrioleurs, engins de police. Une corde de potence anglaise, des pièces assez curieuses de musées criminels. Puis des photographies sur des consoles, sur la cheminée, plusieurs objets d'art, hommages de gens reconnaissants à qui il avait rendu service. Martin Dumas me désigna du doigt la boîte à cigarettes, puis, sans plus s'inquiéter de moi, s'assit devant son bureau et ouvrit les lettres qu'il attendait sur un plateau. Il les parcourait, les annotait d'un coup de crayon bleu, et les rangeait dans un classeur ou les jetait au panier. Tout à coup, il eut un cri d'étonnement. Il fallait vraiment que la surprise causée chez lui par la lettre qu'il tenait fût grande pour faire se départir de son calme habituel cet homme si merveilleusement maître de lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demandai-je en m'avançant vers lui. « Oh, mon cher Courville, quelque chose de très surprenant, de tout à fait inattendu. Et qui promet ? Tant mieux. Oh, quelque chose qui me paraît faire suite aux événements d'hier peut me donner la clé du mystère qui me préoccupait tout à l'heure. » Il me montra la fin de la lettre. À mon tour, j'eus un cri d'étonnement. Pour signature, la lettre portait la croix de Saint-André avec les deux points. Ah, le signe que nous avons vu tracé sur le mur. Parfaitement, celui que j'ai effacé avec mon épaule. Martin Dumas me lit alors la lettre. Monsieur, la première lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser est demeurée sans réponse de votre part. Il est probable que, recevant une lettre sans signature, vous n'avez pas voulu la prendre en considération. Vous avez sans doute tenu pour fantaisie ce signe qui encore aujourd'hui sert de signature à cette seconde lettre. Croyez, monsieur, que rien n'est plus sérieux, je puis le dire, plus grave. Si je ne signe pas, c'est que la prudence me recommande de ne pas livrer mon nom. Je ne veux pas dire à vous, en qui j'ai toute confiance, mais au hasard de la poste. Je vous prie donc de prendre en sérieuse considération ma nouvelle missive et de bien vouloir d'urgence y faire réponse. Je vous demande de m'accorder un entretien secret, non chez vous, ni chez moi, ni dans Paris, mais dans un endroit où nous pourrons nous joindre sans attirer l'attention. J'y viendrai seul, mais pour votre garantie, votre sauvegarde, vous pouvez même par avance faire entourer la maison par des hommes à vous, de façon que vous soyez persuadé qu'il n'y a ni piège ni traquenard dressé contre votre personne. Je joins à ma lettre un petit plan, vous donnant le moyen de venir dans cette maison, qui me paraît un endroit aussi sûr que possible. Si vous connaissez un autre local et s'il vous convient d'aller ailleurs, mais hors Paris, faites-le-moi savoir, je m'y rendrai dans les mêmes conditions. Veuillez me répondre simplement dans les petites annonces du journal aux initiales suivantes MRN. Accepté ou impossible. Vous me direz le jour qui vous conviendra. Encore une fois, monsieur, je vous jure que c'est aussi urgent que grave. Croyez, monsieur, etc. Après avoir lu cette lettre, Martin Dumas la tint un moment dans ses mains, comme la relisant à la muette, repassant les dernières lignes. Puis il me dit en souriant, « Eh bien, mon cher, que pensez-vous de cette lettre ? Je la tiens pour absolument sérieuse, et je crois que ce correspondant inconnu doit me révéler des choses très graves. Voulez-vous me permettre de vous le démontrer ? Oh, volontiers. Oh, je procède comme toujours par déduction. Écoutez, tout d'abord, cet homme me donne cette lettre comme la deuxième qu'il m'écrit. Oui, la deuxième. Or, je n'ai pas reçu la première. Vous n'avez pas reçu la première? Non! Quoi qu'on dise, le service de la poste est bien fait. Rares, très rares sont les lettres qui s'égarent. Surtout quand elles sont adressées à un homme comme moi, connu, comme je le suis dans les administrations. En effet, il faut donc, pour que cette lettre ne vous soit pas parvenue, que votre correspondant ne l'ait pas écrite. Non, c'est inadmissible. Il n'a aucune raison de me dire que c'est la deuxième qu'il m'adresse. Hein, ou alors qu'on l'ait détournée. Eh bien, c'est ce qui certainement a été fait. Mais quand, comment? Je suis sûr de mon personnel. C'est donc entre la transcription de la lettre et la transmission chez moi que le coup a été fait. Autrement dit, c'est entre le départ et l'arrivée que la lettre a été détournée. Alors vous concluez donc que la première lettre n'a pas été mise à la poste. Cependant, je gage que celui qui m'écrivait a confié sa missive à quelqu'un de son entourage, et que ce quelqu'un, qu'il croit dévoué, fidèle, le trahit tout bonnement. Tandis que, méfiant, ou par simple commodité, il a jeté lui-même la deuxième à la poste. Celle-là m'est parvenue, la voici. Oui, très possible en vérité. Maintenant, je tiens pour sérieuse la demande de rendez-vous, parce que cet homme a réellement des faits graves à me faire connaître. Je dois vous dire que la lettre, quoique écrite dans un style français très clair, émane d'un étranger. Mais à quoi voyez-vous cela? Aux répétitions de propositions, aux enveloppements de phrases, à l'abondance de précautions. Tout dénote un homme de courtoisie développée. Prodigue en salutations, en gestes et en compliments. C'est un Italien. Oh, voyons, pouvez-vous reconnaître? Mais oui, mon cher. Nous avons bien reconnu à l'extérieur, tantôt au teint mat, aux moustaches noires, au manteau de fourrure, aux jambes ramassées, aux pieds courts, un Italien. Et pourquoi ne reconnaîtrons pas un Italien à sa façon d'écrire? C'est d'un raisonnement un peu spécieux, mais logique. Cette lettre n'émane pas d'un Allemand, pas d'un Anglais, qui eussent été plus carrés, plus nets. Elle n'est pas d'un Français, qui eût été plus pompeux, plus sûr de lui. Et se fût fâché de n'avoir pas eu de réponse. Elle est écrite par un Italien, souple, politique, insinuant et ami de l'intrigue. Par un Italien soupçonneux, félin et marchant vers un but dramatique qui se cache dans le mystère. Mon cher ami, quand j'écoute vos explications, je suis convaincu. Et ce signe, jamais un Français, un Allemand, un Anglais ne se serait servi d'un signe pour remplacer une signature. Cet homme appartient, comme tout bon Italien, à quelque secte secrète, quelque mafia que nous ne connaissons pas encore. Alors, ce serait lui qui, sur le mur, tantôt... Oui, c'est lui. Ou ce sont les membres de cette association, des gens qui travaillent avec ou contre lui, ou bien encore lui qui travaille contre ces gens. Un traître, alors? Rappelez-vous que le propre de toute association secrète est de nourrir des traîtres dans son sein. Et alors, qu'allez-vous faire ? Ben, tout bonnement, donnez rendez-vous à cet homme. C'est le seul moyen de savoir la vérité sur lui et sur ce qu'il me veut. Mais si vous tombez vous-même dans un piège ? Martin Dumas secoua la tête. Bon, nous le verrons bien. Mais je n'ai pas à m'arrêter à ce détail. Et se tournant tout à coup vers moi, il me demanda « Ça vous tente-t-il de venir avec moi ?» Je serais très heureux de vous accompagner, même si nous courons un danger. » Double plaisir. Alors, ça va. Il se pencha sur son bureau et écrivit. Voilà, me dit-il, la réponse. MRN accepté. Vendredi, 5 heures. Vous allez au journal, mon cher Courville ? Oui, en vous quittant. Voulez-vous alors remettre cette note au guichet des petites annonces ? Elle paraîtra mercredi matin, vendredi donc, nous irons là-bas. Comme j'allais sortir, le timbre de la porte d'entrée résonna. « Qui peut venir à 7 heures ?» dit le détective en fronçant le sourcil. J'ai justement oublié de dire que je ne recevais pas. Le valet de chambre était allé ouvrir. Nous l'entendîmes parlementer avec une femme dont la voix nous arrivait pressante, anxieuse, suppliante. « Je ne sais pas si monsieur est là, » dit le valet de chambre. « Je vais voir. » Il fit entrer la visiteuse dans un petit salon d'attente et vint dans le bureau de son maître lui donner une carte. « Comment est-elle, cette dame ?» questionna Martin Dumas. « Grande, brune, très belle, magnifique. Oh, ça doit être une Italienne. Elle a l'air rudement inquiet. Faut-il lui dire que monsieur est là ?» Martin Dumas répondit « Oui, fais-la entrer. » « Au salon ? Oh non, non, ici, dans mon bureau. » Je serrai la main de mon ami. « Oh, je me sauve, lui dis-je, je vous laisse avec cette personne. »« Du tout, » fit-il en retenant ma main, « je vous garde. Cette visite fait partie aussi de tous les événements que vous connaissez déjà. » Il me montra la carte. Je pus lire « Elvira Focamore ». Presque au même instant, sur la porte que venait d'entrouvrir le valet de chambre, parut Elvira Focamore. Le valet de chambre ne s'était pas trompé en disant à son maître que c'était une femme magnifique. Elle était de haute taille, de stature imposante et remarquablement belle. Dans sa figure mate, encadrée de magnifiques cheveux de jais, ressortaient, sous leurs longs cils recourbés, les diamants noirs de ses yeux et l'arc rouge de sa bouche. Elle portait d'une toilette sombre, sortie de chez le grand faiseur, et sur ses épaules était jetée une étoffe de fourrure précieuse que retenait sur la poitrine un bijou orné de brillants et de 2 pierres superbes. Martin Dumas et moi, en même temps, nous sentîmes nos yeux aussitôt se détacher du merveilleux visage de la visiteuse et se porter vers cette boucle. Le bijou représentait une croix de Saint-André en or et diamant. Des perles fermaient les pointes des branches. Et l'on sait que la croix de Saint-André forme l'X. Chapitre 9. L'idéal Elvira. Elvira parlait couramment et très élégamment le français, avec un accent exotique qui ajoutait du charme à sa voix grave et sonore. « Je vous remercie, monsieur, » dit-elle à Martin Dumas, de m'avoir ainsi reçu tout de suite et d'interrompre votre travail pour m'écouter. Je vous demande pardon d'avoir insisté pour être admise auprès de vous, mais ce que j'ai à vous dire est très sérieux, excessivement grave, et on ne peut plus urgent. Pendant que Madame Focamore lui parlait, je me souvenais malgré moi de la teneur de la lettre qu'avait reçue Martin Dumas et de l'observation de mon ami perspicace, trouvant dans sa phraséologie abondante la nationalité de son auteur. C'était, chez la visiteuse, la même façon de parler, le même enveloppement de mots, les mêmes fioritures, la même élocution ornementée, scandée par des mouvements de bras arrondis, des gestes de mains gracieux. Froid, raide, impassible, Martin Dumas désigna la belle visiteuse un fauteuil. « Je vous écoute, madame, veuillez prendre la peine de vous asseoir. » Mais Elvira Focamore, l'ayant aperçue, sembla hésiter, montra son inquiétude en tournant anxieusement les yeux de mon côté. « Oh, mon ami intime, » répondit Martin Dumas à ses questions posées du regard, « qui me seconde dans toutes mes affaires. Vous pouvez, madame, parler devant lui en toute confiance. » La belle visiteuse me gratifia d'un salut de tête et d'un sourire, puis, rassurée, elle prit le fauteuil que lui désignait Martin Dumas. Tout à l'heure, quand le détective me tendit la carte d'Elvira, j'avais remarqué que, d'un geste rapide, il faisait disparaître dans un tiroir du bureau la lettre et l'enveloppe du correspondant mystérieux. Très calme, le visage immobile, les yeux comme baissés pour concentrer son attention sur ce qu'il allait entendre, il dit « Voyons, madame, de quoi s'agit-il ? » Après une courte hésitation, la belle visiteuse reprit « Monsieur, vous pouvez me sauver la vie en sauvant celle de mon mari, car ma vie consiste toute dans le bonheur que je goûte auprès de celui que j'aime de toutes les forces de mon âme. « Bien, madame, mais monsieur Focamore court donc un pressant danger ?» La belle visiteuse eut un sourire. « Mon mari ne s'appelle pas monsieur Focamore, » dit-elle. « Ah, mais Focamore est mon nom à moi, mon nom de théâtre, très connu en Italie. Je suis chanteuse des scènes royales de la Scala de Milan. Je dis mon mari, bien que des oppositions de famille ancrées dans des préjugés de race et de prévention mondaine ne veulent pas reconnaître officiellement mon mariage, qui a eu lieu secrètement en Italie il y a déjà de longues années. Je suis, moi, Elmira Focamore, mais mon mari est le comte d'Anglio, dit Villa Cerboli. » La chanteuse, ayant prononcé ce nom, s'arrêta et fixa sur Martin Dumas le regard ardent de ses yeux noirs. Elle voulait voir l'effet que ce nom produirait sur son auditeur. Martin Dumas ne broncha pas. Elvira Focamore eut un froncement de sourcils et reprit, appuyant sur ces mots, « Le comte Anglio, » dit Valcharcherboli. « Bien, madame, » dit d'un ton absolument calme le détective. « Le comte Anglio, » dit Valcharcherboli. « J'ai bien entendu. »« Vous ne connaissez pas le comte de Valcharcherboli ?» demanda-t-elle anxieusement. « Non, n'ai pas cet honneur. »« Vous ne le connaissez pas ? Pas du tout ?» « Non, madame. Mais vous connaissez au moins son nom. C'est la première fois que je l'entends prononcer. »« Ah, vraiment ?» De nouveau, elle enveloppa le détective de son regard, cherchant à lire en lui, à voir, à deviner. Mais, comme s'il ne se doutait aucunement de cet examen, mon ami demanda « C'est donc le comte Anglio di Villacervoli qui court un grand et pressant danger. Oui, monsieur. Quel danger? Je ne sais pas. Comment? Oui, j'ignore encore quel est le danger qu'il court, ou plutôt, si, je sais quel est ce danger, mais je ne sais pas comment il va s'y exposer et où il pourra être frappé. Toujours calme, Martha Newman dit à la visiteuse: Pardon, madame, mais vos explications manquent un peu de clarté. C'est l'émotion, l'émerveillement. Voyez-vous, monsieur, comprenez ma terrible situation. Je sais que mon mari peut tomber dans un péril extrême, qu'il peut y laisser sa vie. Et j'ignore, je ne sais rien, rien d'autre chose que la menace du malheur. C'est déjà un grand point. Un homme averti en vaut deux. Et certainement le comte d'Illyria, Valjean Archibald, prévenu de ce péril, ne s'y exposera pas. Au contraire, monsieur. Oh, ben non, en ce cas, il saura se défendre. Le danger est peut-être moins grand que votre affection ne vous le fait croire. Plus grand, plus terrible. Mais, madame, vous pouvez retenir votre mari, l'empêcher d'aller au-devant du danger. Hélas, non, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pour cela même que je suis venu vous trouver. Vous qui êtes fort, très habile, vous qui disposez de moyens que nous n'avons pas. Vous saurez retenir mon mari, ou tout au moins le protéger, le défendre, le garantir. Je ne le dis pas, madame, mais encore faut-il connaître ce danger. Il est grand, c'est tout ce que je sais. Vous ne le connaissez pas, vous ne vous en doutez pas. Non, monsieur. Voyons, madame, quels sont les dangers que peut courir un homme comme le comte de Villacerboli? Il est riche, n'est-ce pas? Très riche. C'est un homme du monde. Oh, accompli. Il fréquente les cercles, les théâtres, les courses, partout enfin où la vie du tout Paris se manifeste. Oui, parfaitement. Donc les dangers sont normaux, on peut les prévenir facilement. Oh, je l'espère. Craignez-vous un déraillement, un naufrage? Ben, empêchez-le de voyager. Non, ce n'est pas cela. Une ascension en aéroplane? Non plus. Un accident automobile? Ben, ne le laissez pas aller en auto. Non, ce n'est pas de ce genre. Alors, une chute de cheval? Oh non, ce n'est pas un accident. Un malheur ayant pour cause le sport. Le comte, peut-être, doit-il se battre en duel? Et pour lui, vous redoutez le coup d'épée, de sabre, de pistolet? La belle Elvira hésita une seconde, puis ses yeux eurent un éclair. Vivement, elle s'écria: Oui, je crois que c'est plutôt de ce côté que nous devons chercher. Eh bien, voilà une indication. Vous croyez donc que le comte di Villacerboli a un duel? Oui, je le crains. Affaire de cercle, sans doute. Le comte vous ayant pour femme, votre beauté lui attire des jaloux, des ennemis. Il y a d'autres motifs pour amener deux hommes à se couper la gorge. La politique, par exemple. Oui, en effet. Le comte fait donc de la politique. Hélas, je le crains. Ici, en France? Oui, monsieur. Il a des amis catalans qui l'entraînent dans leur projet d'émancipation de République catalane. Mais ne m'avez-vous pas dit qu'il était italien? Raison de plus, je crois que le comte fait de la politique, comment dirais-je, cachée, secrète. Ah! Vous savez, les Italiens, les Siciliens surtout, font tous plus ou moins partie d'une association, d'une camorra quelconque. Et cette idée de conspiration catalane lui plaît beaucoup. Le comte est donc membre d'une association secrète pour libérer la Catalogne. Oh, à mon insu, Il se cache de moi. Il ne veut pas que je le sache. » Et Elvira demanda vivement, « Mais vous devez le savoir, vous. » Martin Dumas ne sourcilla pas. « La police politique ne me regarde nullement, » répondit-il. « Les missions que me confient mes chefs sont de rechercher les criminels, mais non de m'occuper de choses politiques secrètes ou non. Et comme le comte de Vichal Sherboli n'a pas commis de crime, vous ne trouverez pas étonnant que je ne connaisse même pas son nom. » Puis, reprenant, « Or, c'est donc uniquement parce qu'il est membre d'une camorra que vous redoutez un danger pour lui. » « Oui, monsieur. » « Je pourrais vous dire, en ce cas, madame, que cette affaire ne me concerne pas. Que vous devez vous adresser au préfet de police directement, qui fera agir sa brigade politique. Mais ce sera du temps perdu. Aussi, madame, puis-je prendre sur moi de vous rassurer, de vous donner quelques conseils. Parlez-moi donc en toute sincérité. Rien de ce qui est prononcé ici ne passe cette porte. Vous n'avez rien à craindre, je vous écoute. Eh bien, voilà. Mon mari, qui ne sait pas que je suis à peu près au courant de ses agissements secrets, de ses liens politiques, vous savez, les femmes ont mille moyens de se renseigner sur leur mari. Oui, il paraît. Mon mari a donné, oh, je ne sais pas très au juste, un rendez-vous à des amis ou a reçu d'ennemis politiques un défi, une menace. Bref, je sais, enfin, on m'a dit, j'ai appris enfin que ce rendez-vous devait avoir lieu aux environs de Paris, dans un coin de banlieue. De quel côté, je vous prie, madame ? La chanteuse hésita à répondre, puis, fixant ses yeux sur l'impassible détective, elle dit, oh, « Je ne sais pas précisément, on m'a dit du côté de Mantes. » « Oui, c'est assez vague. Un peu plus près de Paris. » « Ce n'est guère plus précis. Vraiment, vous ne savez pas, vous n'avez entendu parler de rien ?» Elle insista. « Vous n'avez reçu aucune lettre vous avertissant ?» Martin Dumas écarta les bras pour toute réponse. La belle visiteuse eut une moue de dépit. « Dans ce cas, fit-elle, ça va être très difficile, très pénible. Comment arriver à temps? Comment empêcher ?»« Mais c'est à vous, madame, à fournir à la police et le lieu et le jour du rendez-vous, si vous voulez qu'une mesure préventive soit prise. Sans quoi, je crains que nous ne puissions intervenir que judiciairement. Quand le forfait que vous redoutez sera accompli, c'est-à-dire, il sera trop tard. Hélas, mais dans tous les pays du monde, les policiers procèdent un peu comme des carabiniers. Ils arrivent toujours trop tard. Oh mon Dieu, mais je suis désolé, mais c'est épouvantable, c'est affreux. Malheureusement, madame, il ne peut en être autrement. Il faut donc que le crime soit commis pour que la police intervienne. Oui, madame, surtout quand ce crime est aussi problématique que celui dont vous me parlez. Mais en faisant surveiller... Mais surveiller quoi donc, madame ? Le territoire compris entre Mantes et Paris, mais c'est impossible. Bien, en le faisant suivre. Mais suivre qui ? Mon mari. Mais nous n'en avons pas le droit. Pour cela, il faut que vous fassiez une demande en règle au parquet de la Seine. Il y a une marche à observer qui vous indiquera des règlements dont on ne peut s'écarter. Mais alors, mon mari pourra savoir apprendre, se douter qu'il est surveillé. Non, peut-être pas. Oh, justement, je ne voudrais en aucune façon qu'il s'en doutât. Pour rien au monde, je ne voudrais surtout qu'il pût deviner que cette surveillance est à mon instigation. Dans ce cas, madame, et pour vous prouver combien je serais heureux de vous seconder, je ne vois qu'un moyen d'arranger les choses. Oh, lequel? Parlez, parlez vite, quel est ce moyen? Une femme, quand elle veut s'en donner la peine, obtient tout d'un homme. Tâchez-vous, madame, et je ne doute pas que cela vous soit excessivement facile. Tâchez donc d'obtenir de votre mari une indication plus précise, si petite qu'elle soit, qui puisse me mettre sur la trace. Et je vous promets de partir aussitôt en campagne, après toutefois l'autorisation de mes chefs. Oh, monsieur, quelle reconnaissance j'aurai pour vous! Car c'est mon bonheur, c'est ma raison de vivre que détient mon mari. Et si un malheur arrivait, oh, mon Dieu, rien que d'y penser. N'y pensez pas, madame, mais plutôt gagnez du temps et employez toutes vos ressources féminines à obtenir cette première indication que je vous demande. Mais hâtez-vous, hâtez-vous. La belle Elvira Focamole se leva et prit congé après avoir encore supplié Martin Dumas de sauver son mari, de sauver le bonheur de sa vie. Martin Dumas la reconduisit jusqu'à la porte de son appartement. Quand il revint, il se campa droit devant moi, les bras croisés, un sourire sur les lèvres et dans les yeux une flamme rieuse. Eh bien, dit-il, que pensez-vous de cette visite, mon cher Courville? Ben, je ne sais trop. Cette femme est très belle, magnifique, superbe, séduisante. La classique vampire aux yeux noirs, la belle dangereuse, mais elle ne m'inspire aucune confiance. Comment cela? Oh, il m'a semblé que, quoique grande chanteuse, très connue en Italie, elle chantait faux, pour faire dire le vrai. Mais quel vrai? Mais celui de la seconde lettre que vous connaissiez. Oh! Mais pas un mot de ce qu'elle nous a fait entendre n'est réel. Elle n'aime pas le comte di Villacerboli, qui n'a ni son bonheur, ni sa vie. Une femme qui aime vraiment un homme, qui est dans l'anxiété, l'angoisse à son sujet, n'apparaît pas en vampire dans cette toilette séductrice, avec ce sourire calme. Une femme qui va pleurer ne se peint pas les yeux pour verser des larmes. Celle-ci conserva d'ailleurs les siens absolument secs. Elle joignit des mains suppliantes. Oh, elle eut des exclamations de douleur, mais ce fut comme une scène de théâtre. Elle nous a joué un personnage pathétique d'opéra, sans musique. C'était très bien, mais ni vous ni moi n'y avons ajouté foi. Commediante, comme ils disent en italien. Commediante, pas autre chose. C'est mon avis. Parfait, maintenant, je vais vous faire connaître cette femme en vous dévoilant ce qu'elle est. Oh, certainement, elle n'aime pas celui qu'elle appelle son mari. Mais bien plus, elle est l'ennemi de cet homme. Oh non, vous exagérez peut-être. Point, non seulement elle ne vient pas me demander de prendre les mesures nécessaires pour le sauver, pour l'arracher à un péril qui n'existe pas, à ce péril catalan, mais sa présence ici avait pour but de trouver, chez moi, le moyen de faire naître ce danger, de créer ce péril. Alors là, je n'y suis plus. Je vais vous mettre sur la voie. C'est elle qui a détourné la première lettre que je n'ai pas reçue. À cette déclaration catégorique, je fis un bond. Elle qui a volé la première lettre? Elle, appuya fortement Martin Dumas. C'est elle parfaitement. Sa visite ici en est la meilleure des preuves. Mais comment cela? Mais il va sans dire que le comte du village Cerboli, qui sans doute aime follement sa femme, qui en elle la plus absolue confiance, ignore quel vampire, quel monstre se trouve à ses côtés. Le comte dit tout certainement à sa femme, sauf ce qui a rapport à cette société secrète de patriotes dont il fait partie, ou du moins il ne lui dit à ce sujet que fort peu de choses. Mais qui est ce comte de Villacerboli? Que fait-il? Comment est-il dans cette société secrète? Pourquoi une autre société lui en veut-elle? Je présume, mon cher Courville, que le comte de Villacerboli a des ennemis très puissants, très dangereux, et qu'il veut se mettre en garde contre leurs coups. Car à côté des illuminés, des patriotes, qui marchent à la libération de la Catalogne, se trouvent toutes sortes de bandits pour profiter des troubles. Le comte doit les gêner, ils veulent se défaire de lui. C'est pour cela qu'il a recours à moi. Or, notez ceci, la belle Elvira Focamore, soi-disant sa femme, épousée secrètement, est tout bonnement l'espionne des bandits, la femme au gage de l'ennemi. Mais c'est possible, c'est épouvantable. C'est dramatique, n'est-ce pas, romantique et romanesque. Mais dans la vie, le plus réel et surtout le plus fantastique. Revenons à la belle Elvira Vocamore. Voici, selon moi, ce qui s'est produit entre elle et son mari. Le comte di Villacerboli, pour une raison que nous ne connaissons pas, est menacé. Le comte di Villacerboli, pour se garer des coups qu'on veut lui porter, cherche à se mettre sous la protection de la police française. Il a recours à l'agent dont la réputation est assez établie en France et en pays étrangers, à Martin Dumas. Ben oui, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Merci. Mais le comte de Villacerboli se sait surveillé, épié, entouré d'yeux, d'oreilles et de mains qui ne lui donnent plus la liberté nécessaire pour conférer avec moi. Car il est évident à présent que cette lettre est du comte de Villacerboli. De là, cette demande de rendez-vous écartée en dehors de Paris. Oh, pardon, mais si la première lettre est tombée entre les mains des ennemis, le secret est brûlé. Attendez, mon cher, attendez. Le comte m'a écrit une première lettre. Sa femme en a eu connaissance. Oh, comment, il y a 100 manières. Bref, d'une façon ou d'une autre, cette lettre non seulement ne m'est pas parvenue, mais elle n'est pas partie et se trouve aux mains des ennemis. Mais c'est ainsi que cela a dû se passer, en effet. Vous parliez de rendez-vous connu. Mais si le comte est vraiment un bon conspirateur, un politique prudent, se doutant seulement que la première lettre a été arrêtée en route et que par conséquent son premier rendez-vous est connu, c'est un second rendez-vous qu'il vous donne dans sa nouvelle lettre. C'est cela même. Or, cette nouvelle lettre n'est pas passée par les mêmes mains que la première. Le comte, mis en éveil, a tenu à la jeter lui-même à la poste. Oui, c'est ce qu'il aurait toujours dû faire. Et sa femme, la belle Elvira, a cependant eu connaissance de cette deuxième lettre. Dès lors, affolement général chez les ennemis, qui eux aussi, bons conspirateurs, savent que le comte forcément a dû fixer un nouveau rendez-vous. D'où il résulte que ce qu'on veut empêcher par-dessus tout, c'est l'entrevue du comte et de M. Martin Dumas. Et l'on a expédié la belle Elvira Focamore auprès de moi. Elle, épouse du comte, pouvait seule me questionner sans me causer de la méfiance, sans me mettre en éveil. Elle pouvait, en jouant cette jolie comédie de la femme éplorée, me faire dire je prenais des mesures pour sauvegarder son mari, me faire sortir du nez comme un long verre, et le lieu du rendez-vous, et l'heure, et enfin tout ce qu'elle venait chercher, que je ne lui ai pas dit. Oui, elle s'en retourne comme elle est venue. Oh, pas tout à fait. Elle s'en retourne avec cette conviction que je ne suis au courant de rien, que je n'ai pas reçu la seconde lettre qui, comme la première, ne m'a pas touché. Un conspirateur, policier et demi. Mais cette femme est très forte. Vous avez sans aucun doute vu qu'elle portait bien un apparent sur sa poitrine, un bijou en or. Oui, formant croix de Saint-André avec des perles aux pointes. C'est le signe que nous connaissons, celui du mur et celui de la lettre. La belle Elvira pensait sans aucun doute que si j'avais reçu la seconde lettre, et si je n'ignorais pas ce signe, je ne pourrais m'empêcher de lui parler de ce bijou symbolique, ou tout au moins de le regarder avec les yeux qui en connaissaient la signification. En effet, mais je ne l'ai regardé que juste pour l'apercevoir et me mettre en garde, et je n'y ai pas plus ajouté l'attention qu'au pendant d'oreille qu'elle portait. Sur ce point encore, elle se trompait. Nous l'avons déjoué. Et maintenant, que décidez-vous pour ce rendez-vous? Vous allez porter au journal la note pour le petit correspondance. Elle paraîtra demain. Le comte sera informé. Comme j'allais sortir, j'eus l'idée de demander à mon ami. Mais en nous lançant sur cette nouvelle affaire, est-ce que nous n'allons pas nous écarter de l'assassinat du banquier Castanier? Martin Dumas fixa sur moi ses yeux perçants, et après un moment, il me dit « Croyez-vous que ces deux affaires soient bien étrangères l'une à l'autre? Mais quel lien peut-il exister entre le banquier Castanier assassiné et le comte du village Cerboli? Mais depuis quand, mon cher, suis-je suivi et épié? Depuis quand ai-je eu connaissance de ce fameux signe X mystérieux? Ah oui, depuis l'affaire Castanier, en effet. Et vous demandez s'il y a un lien? Voyons. Le marquis Primo di Carmine Santucci est de quelle partie de l'Italie? De la Sicile? Et le comte di Villa Cerboli? Oui, sicilien également. Donc, croyez-moi, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de dénouer une nouvelle intrigue que je vais à ce rendez-vous du comte. »